une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Pour être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je vais laisser la parole à Cathy Dogon, qui travaille pour le magazine de pédagogie économique Pour l'éco. Salut Cathy.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de dons, de travail domestique et de bling-bling.
Ça commence par un petit geste anodin, donner 1,30€ au petit ou à la petite pour qu'elle achète le pain. Puis ce premier échange marchand devient nécessaire et les parents s'interrogent sur l'argent à donner à leur progéniture. Toutes les semaines, pour les anniversaires seulement, quand il ou elle en a besoin et en formule la demande. Et puis, combien donner à 5, 10 ou 15 ans?
14 298.
Oui,
c'est quoi 90?
14 298. C'est le 9 et le 8.
Magnifique. C'est gagné.
En fait, il n'existe pas de réponse universelle, mais une sociologue a travaillé à produire des statistiques pour connaître la réalité dans la multitude de foyers français. Riches, pauvres, intello, capitalo, donnent-ils tous de la même manière? Dès lors, des tendances se dégagent et ce petit geste anodin devient le véhicule de valeurs plus politiques, parfois féministes et évidemment économiques. Est-ce que la manière de donner de l'argent et les montants que donnent les parents feront des enfants des bons ou des mauvais gestionnaires? L'argent de poche conditionne-t-il les enfants? Les premiers échanges économiques passent par des cadeaux et correspondent souvent soit à des moments marqués socialement, comme les fêtes religieuses ou familiales, soit à des événements particuliers dans la vie des individus. Les anniversaires, les baptêmes, la communion, le diplôme, ou le fameux passage de la petite souris après la perte d'une dent. Des chercheurs et chercheuses suisses, Francesca Pugliamiliti, Fabrice Plon et Caroline Anchaud, dont je vous mets la référence en description, disent que cette gratuité au sein de la famille vise d'abord à cet âge à renforcer les liens de parenté ou affectifs avec les parents, les grands-parents, les marraines ou les parrains. En retour, les enfants sont incités à donner au minimum un merci ou un baiser. C'est comme ça qu'ils apprennent pour la première fois les règles d'échange et de réciprocité et les valeurs morales attachées à l'argent comme l'équité, l'ancienneté, le mérite, etc.
T'es poli ou t'es pas poli, toi? Hey.
Et puis, ça évolue un peu.
Entre 7 et 10 ans, les enfants deviennent beaucoup plus autonomes dans l'espace public.
Marion Clerc est doctorante en sociologie économique à Dauphine PSL. Elle écrit en ce moment une thèse sur les processus concrets de la socialisation économique des enfants entre 8 et 10 ans. En gros, comment les enfants se familiarisent avec l'argent à partir de l'âge où ils commencent à en prendre conscience.
Enfin, ils se retrouvent à faire des achats tout seuls, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Et aussi, ils affinent leur vision du monde qui peut être potentiellement, qui est aussi en fait une vision politique. À 7 ans, ils n'ont pas forcément conscience du monde au-delà de leur famille et de leur école. Et c'est ce qui est hyper intéressant en soi. Hein. Enfin, c'est-à-dire, ils ne perçoivent pas, par exemple, très mal la potentialité d'inégalités de richesse autour d'eux dans leur environnement immédiat, alors qu'à 10 ans, ils sont beaucoup plus capables de dire oui, en fait, il y a des inégalités de richesse entre ma famille et la famille de mes camarades.
Ces perceptions, ces émotions, ces impressions vis-à-vis de l'argent, Marion Clerc les recueille au sein d'entretiens avec les parents et les enfants. Pour sa thèse, elle suit pendant 2 ans des classes du CE1 au CM1. Ces classes se trouvent au sein de 2 écoles dans une grande métropole française, l'une dans un quartier central, l'autre dans un quartier excentré. Cette méthodologie est importante parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de données quantitatives sur l'argent de poche. Et les dernières études qualitatives sur le sujet remontent au début des années 2000. Jusque-là, la littérature scientifique nous dit que les plus jeunes imaginent que l'argent serait disponible en quantité illimitée à la banque.
Par exemple, en CE1, c'était l'année où la plupart des enfants que j'ai rencontrés étaient allés à la boulangerie acheter du pain pour la première fois. En fait, ils n'allaient pas acheter du pain tout seuls. Ils allaient acheter du pain avec papa ou maman à la porte de la boulangerie ou derrière eux, etc. Et puis l'année d'après, ils y allaient seuls, avec le parent de plus en plus loin. C'est pareil pour pas mal de magasins, en fait. Enfin, c'est des magasins. En gros, ils apprennent pas à acheter, à dépenser tout seul, en fait. C'est vraiment des pratiques qui sont accompagnées.
Et à ces pratiques parentales s'ajoute l'enseignement scolaire. On aborde la monnaie, notamment dans les leçons de calcul à partir du CP et dans des programmes d'éducation financière qui posent pas mal de questions. On y reviendra en fin d'épisode.
Alors, à quel âge a lieu le premier don d'argent ?
C'est à 9 ans que les enfants reçoivent en moyenne le premier don d'argent. On parle de don d'argent, et pas simplement d'argent de poche, parce qu'on va le voir, le don d'argent n'est pas toujours planifié par les parents comme quelque chose de régulier. Il ne prend pas toujours la même forme et n'a pas toujours la même récurrence. Marion Claire distingue 4 dons d'argent. De manière régulière, de l'argent en cadeau, la récompense de travaux domestiques ou de résultats scolaires, ou encore du don en cas de besoin. Mais alors, pourquoi 9 ans et quel est l'élément déclencheur ? Marion Claire.
Parfois, typiquement, si on prend l'argent versé de manière régulière, donc ça sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle, il y a des parents qui vont se dire c'est une pratique éducative que, par exemple, eux-mêmes, ils ont connue. Et ils vont vouloir la reproduire avec leur enfant et ça va être eux qui vont proposer. Ça peut être aussi des enfants qui en ont entendu parler à l'école et qui, du coup, vont demander à leurs parents. Quand j'avais commencé mon enquête, donc les enfants, ils étaient tout petits, ils étaient en CE1. En fait, il n'y avait qu'un seul enfant qui recevait de l'argent sur une base régulière. Et donc, lui, c'était vraiment ses parents qui avaient pris cette initiative-là de lui donner de l'argent de manière hebdomadaire. Mais par contre, c'était des parents qui étaient très disposés à encourager l'autonomie de leur enfant. C'était un enfant qui était extrêmement débrouillard, qui était poussé à se déplacer tout seul, à s'occuper tout seul, etc. Et du coup, ça s'inscrivait en fait dans la continuité de ça. Après, du coup, c'est quand les enfants demandent de l'argent ou demandent à avoir de l'argent de manière régulière ou en récompense, ça peut être plutôt par des effets d'imitation, soit de leurs camarades de classe, soit évidemment de leurs frères et sœurs aînés. Donc ça, c'est assez... C'est assez fréquent. Si le grand frère ou la grande sœur a de l'argent, le cadet ou la cadette va demander, lui ou elle aussi, à avoir de l'argent.
Une question qui nous brûle à tous le bord des lèvres, parce qu'avouons-le, on est tous un peu obsédés par ça. Combien ces petites personnes de 9 ans reçoivent-elles en moyenne ? La réponse n'est pas si simple.
Ça n'a pas forcément intéressé la statistique publique qui s'intéressait au budget des ménages. Moi, à partir de mon enquête, je dirais que c'est en gros vers 10 ans. Les enfants qui reçoivent de l'argent de poche régulièrement, ils ont 5-10 euros par mois. En fait, il y a un biais dans ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas tous les enfants qui versent l'argent régulièrement, qui reçoivent de l'argent régulièrement. C'est plutôt les enfants de familles les mieux dotés économiquement, notamment.
Et pourquoi les parents donnent de l'argent à leurs enfants à cet âge-là ? Quelles sont leurs intentions ?
Premièrement, préparer l'enfant à gérer un budget en vue de sa future autonomisation financière. Deuxièmement, transmettre des normes et des valeurs en matière de consommation et d'épargne. Et troisièmement, le rendre peu à peu libre de faire ses propres choix en matière de consommation. Marion Claire.
Les enfants qui avaient de l'argent sur une base régulière étaient laissés beaucoup plus libres de leur achat. Et en fait, c'est ça le sens de la pratique, en fait. Quand on donne de l'argent aux enfants sur une base régulière, on leur apprend à gérer un budget. On est plus sur un modèle salarial quelque part, qui du coup, avec rémunération fixe, quel que soit le mérite, donc c'est l'effort, donc c'est assez différent de la rémunération du travail dans l'esprit. Mais par contre, les enfants sont incités à faire leurs propres choix en matière de dépenses d'achat et puis à gérer leur budget, donc à s'inscrire dans une forme de temps long. Ou s'ils veulent quelque chose, il faut qu'ils économisent.
Et enfin, quatrièmement, rémunérer son travail, si tant est qu'on travaille à 9 ans. C'est tout un débat, comme nous l'explique Marion Claire.
Quand on donne de l'argent en récompense de travail réalisé à la maison, on est en train de signifier à l'enfant que le travail doit être rémunéré, que l'effort doit être récompensé, mais aussi quelque part, et c'est pour ça que j'avais quelques parents qui avaient arrêté, que le travail domestique n'est pas un devoir de l'enfant envers sa famille, mais que c'est quelque chose qui doit être motivé par une récompense. Ce qui veut dire plein de choses, en fait, parce que à la maison, il y a des personnes qui font beaucoup de travail domestique.
Entre nous, surtout des femmes.
Et qui ne sont pas rémunérées pour. Donc, ça interroge aussi sur comment on met les frontières entre qui doit être payé pour le même travail et quel travail mérite salaire et quel travail ne mérite pas salaire. En voulant encourager une certaine implication face au travail de leurs enfants, les familles, elles charrient, elles transmettent un certain nombre de normes à leurs enfants. À l'inverse, il y a des familles qui vont pas du tout vouloir, comme je disais, rémunérer le travail domestique parce que ça doit être sous forme de don. L'enfant est peut-être un peu plus considéré comme un adulte et du coup doit effectuer les tâches domestiques au même titre. Donc refus de rémunérer ce travail-là. Et puis par exemple, si on prend la rémunération du travail scolaire, ben, il y a des familles qui veulent pas du tout rémunérer le travail scolaire. Le travail scolaire s'effectue sur le mode du don, de la vocation, et ne doit pas être pollué en fait par motivation qui serait extrinsèque.
Ces différences sont expliquées par la propre culture qu'ont les parents vis-à-vis de l'argent.
Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de donner de l'argent selon le mode de vie ?
Oui, mais il faut distinguer le mode de vie, le métier exercé et le niveau social, parce que ces trois facteurs ont un rôle sur la manière dont les enfants reçoivent de l'argent. Commençons par le mode de vie. Marion Claire.
On m'avait fait remarquer un jour, en fait, c'est drôle parce que tes enfants d'indépendants, ils sont rémunérés à la tâche. Tes enfants de profs fonctionnaires, ils sont rémunérés sur une base régulière. Et puis, les enfants des familles où les revenus sont un peu plus irréguliers, un peu plus incertains, en fait, ils sont rémunérés selon, enfin, quand ils en expriment le besoin, quand ils demandent à leurs parents. Donc ça, c'est à la fois contraint par les possibilités matérielles des parents, et aussi, il y a une forme de reproduction de leur propre système de rémunération. En fait.
Toutes ces données sont déduites selon la profession de la mère, et ça a son importance.
Disons que si on prend le diplôme du père et le diplôme de la mère, quand on fait nos traitements statistiques, il y a des chances qu'ils se neutralisent l'un l'autre, et qu'on voit des résultats moins saillants. On sait que souvent, c'est les mères qui sont un petit peu plus impliquées dans l'éducation des enfants. Et donc, ça faisait sens d'utiliser le diplôme de la mère. Et de fait, on obtenait des résultats un petit peu plus contrastés.
Parmi les contrastes qu'on trouve, des habitudes très différentes selon le niveau social. Au-delà des intentions des parents dans l'éducation de leurs enfants, quelles sont les véritables pratiques ?
Par exemple, la pratique de l'argent de poche sur une base régulière, elle se trouve beaucoup plus dans le haut de l'espace social. Là, c'est des données, ce que je disais, c'est des données de 2002 sur des enfants de 10 ans. Et on trouvait que 39% des enfants issus des classes supérieures recevaient de l'argent sur une base régulière, 32% dans les classes moyennes et 27% dans les classes populaires.
Dans ce dernier cas, chez les familles populaires, on attend plutôt que l'enfant demande pour lui donner de l'argent.
Et à l'inverse, donner de l'argent en réponse à un besoin exprimé par l'enfant, c'était 42% des enfants de classe populaire, donc une proportion assez importante, 31% dans les classes moyennes et 27% dans les classes supérieures.
Marion Claire introduit une petite nuance.
Donc en fait, j'ai trouvé plusieurs familles qui refusaient totalement de donner de l'argent sur une base régulière à leurs enfants. Donc il y avait des familles de classe supérieure ou assez aisées, pour qui c'était très important de transmettre le sens du travail à leurs enfants et donc de pas les habituer à recevoir de l'argent sans rien faire. Et il y avait un autre type de famille, et donc c'était plutôt des familles de classe populaire qui vivaient dans un quartier HLM, et c'était notamment les mères de petits garçons qui me disaient qu'elles voulaient pas donner d'argent sur une base régulière à leurs enfants pour pas les habituer à l'argent facile.
Mais dans ces familles-là, comment les mères couvraient-elles les besoins des enfants ?
Elles couvraient leurs fils de cadeaux, mais elles leur donnaient pas d'argent. Et de mémoire, quand ils recevaient de l'argent, il était mis sur un compte ou mis de côté. Elles leur laissaient pas trop d'argent à proximité.
Parce que les frontières ne sont pas si nettes, certaines pratiques sont cumulatives, et c'est intéressant. Les enfants qui reçoivent de l'argent en récompense ou en cas de besoin reçoivent aussi des cadeaux de Noël ou d'anniversaire sous forme monétaire. Alors que les enfants qui reçoivent de l'argent régulièrement, eux, cumulent moins. Et ceux qui reçoivent de l'argent pour Noël, une fête ou un anniversaire, ont 2,5 fois plus de chances qu'on leur conseille d'épargner que ceux qui ne reçoivent pas d'argent en cadeau. On appelle ça le marquage de l'argent.
En gros, l'idée, c'est que l'argent a une odeur et qu'il est marqué et qu'il ne circule pas de la même manière selon la manière dont on l'a reçu, selon la personne qui nous l'a donné, etc.
Au moment de recevoir de l'argent en cadeau, les parents discutent avec l'enfant de ce qu'ils vont collectivement en faire, à quoi il va servir.
Alors, est-ce qu'on parle plus d'argent devant les enfants dans les familles privilégiées ou dans les familles moins favorisées ?
Tu as raison, Emmanuel, ça varie selon les classes sociales. Marion Claire.
On parle beaucoup plus d'argent devant les enfants dans les familles de classe populaire, et que ça, c'est lié à notamment deux facteurs. Le fait qu'il y a une contrainte d'espace potentiellement, et du coup, c'est plus difficile de s'isoler pour parler de certains sujets. Et l'autre facteur, ça peut être qu'en fait, il y a plus à discuter au quotidien sur l'argent. Enfin, c'est-à-dire que quand quand vous avez des problèmes d'argent, ça peut être un sujet quotidien.
Entre parler d'investissement ou plutôt de survie alimentaire au quotidien, ça forge forcément des futurs agents économiques différents. C'est un élément central de la socialisation économique. Selon les sujets de discussion à la maison, l'enfant s'habitue à certains champs de l'activité économique. Et les différences sont tellement grandes qu'on pourrait supposer que l'école doit jouer un rôle.
Et comment atténuer les différences entre les familles ? L'école devrait-elle rééquilibrer ces différences ?
En fait, c'est pas si simple.
C'est jamais facile.
Parce que qui dit socialisation économique universelle dit aussi formatage. Marion Claire.
Depuis notamment 2015-2016, où il y a une stratégie nationale en France en matière d'éducation financière, ce qu'on peut dire sur ces dispositifs qui sont portés, alors en termes d'acteurs publics, c'est par la Banque de France, le ministère de l'Économie et l'Éducation nationale qui sont assez investis sur ces questions. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces dispositifs restent quand même assez modestes par leur ampleur.
Les chercheurs et chercheuses suisses, dont je vous parlais plus tôt, estiment que cette éducation financière, précisément, vise à prévenir les dérives de la société capitaliste, comme la consommation compulsive ou l'endettement. Les analyses sociologiques critiques montrent que ces sessions d'apprentissage se fondent sur le choix rationnel et un individualisme méthodologique et oublient de considérer les aspects contextuels, culturels, les temporalités biographiques, c'est-à-dire les différents parcours de vie des individus. Marion Claire nous en dit un petit peu plus.
En fait, le modèle qui peut être promu par l'éducation financière et budgétaire, ça peut être de responsabiliser les consommateurs pour l'état de leurs finances plutôt que d'autres acteurs. C'est aussi de se reposer sur une certaine vision de la manière dont se gère un budget et qui peut être le résultat d'une forme de ethnocentrisme de classe, comme on dit. Si l'éducation financière et budgétaire dit que la bonne manière de gérer un budget, c'est de savoir équilibrer les recettes et les dépenses, c'est en fait une vision très budgétaire. C'est une vision qui est souvent celle d'un ménage avec des revenus stables, des dépenses stables, etc. Sauf que ça correspond pas forcément au modèle budgétaire des classes populaires et notamment les plus fragiles, en fait. Où, l'aide sociale, elle peut être versés tous les deux mois, où il y a des rentrées d'argent irrégulières, où vous travaillez chez Uber, vous êtes chauffeur Uber, il y a des mois avec, il y a des mois sans, les revenus sont irréguliers, il y a des phases d'emploi et de non-emploi, pas mal d'aléas qui font que le modèle un peu traditionnel de l'éducation budgétaire où on vous fait faire une colonne avec vos revenus fixes et une colonne avec vos dépenses fixes, en fait, sur une base mensuelle, ne marche pas si bien.
Un apprentissage qui contraste avec la culture populaire. Les publicités des objets de luxe, aux émissions de télé-réalité, aux modes de vie bling-bling exhibés dans les vidéos de certains artistes ou influenceurs. Et qui contraste aussi avec la réalité. 42% des Français répondent, dans un sondage de la Banque de France, que l'argent est fait pour être dépensé. Ça monte à 56% chez les 18 à 24 ans.
Les pratiques culturelles que tu as évoquées, couplées à ces politiques publiques, est-ce que ça permet aux Français d'avoir une bonne éducation financière ?
Les Français possèdent une culture financière similaire à la moyenne de l'OCDE, avec un score final de 13 sur 21. Mais selon un sondage de la Banque de France, publié en juillet 2022, 2/3 des Français jugent leur connaissance moyenne ou faible sur les questions financières. Ce score est néanmoins en amélioration par rapport à la précédente enquête menée en 2018. En pratique, le comportement financier des Français semble réfléchi, nous dit la Banque de France. 83% déclarent régler leur facture à temps et 71% surveillent de près leur situation financière. Mais quand les questions deviennent plus précises, ça se corse. La moitié de l'échantillon n'a qu'une idée approximative de ses dépenses mensuelles. 41% ont le sentiment de ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget et 80% considèrent qu'une éducation financière est nécessaire à l'école.
Finalement, est-ce que l'argent de poche conditionne les enfants ?
La réponse de Marion Claire va déculpabiliser les parents inquiets qui nous écoutent.
Les enfants ont toujours une marge de manœuvre, premièrement. Et puis, ils vont se resocialiser, ils vont avoir un ensemble de dispositions. Et même le fait de donner de l'argent ou la manière dont on donne de l'argent, ça ne veut pas dire que les enfants sont complètement cohérents non plus. Parfois, ils veulent économiser, ils le disent et puis ils le font pas. Mais c'est parce que, comme les adultes, en fait, ils sont soumis à plein d'influences contradictoires. Ça ne les détermine pas. Ce qui est sûr, c'est que ça constitue un stock de dispositions qui vont les accompagner pendant un certain temps, qui vont être activés dans certains contextes et pas dans d'autres, etc.
Finalement, selon les familles, le bout de chou ne reçoit pas autant ni à la même fréquence. Mais difficile de savoir si cette socialisation économique fera de lui un dépensier ou un bon petit gestionnaire. Dans le système actuel, très bancarisé, pensé à partir du modèle salarial, c'est pourtant cette dernière attitude qui est recherchée. Alors, l'éducation financière peut aider à ça, mais elle n'intègre pas encore les nouvelles formes de rémunération. Plus sporadique et moins automatique.
Merci Cathy pour cet épisode. Si vous aussi vous l'avez aimé et que vous aimez Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Cathy Dogon, en compagnie d'Emmanuel Martin, prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'Arrière Boutique Studio, réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Acmi.